Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été pour la dernière émission de la saison. On est ensemble jusqu'à 19h. À l'heure qu'il est, ils sont dans le train, le car ou peut-être l'avion qui les ramène chez leurs parents. Dernier jeu ce matin, dernier tour de vaisselle, dernier adieu aussi à la plage, au mono et surtout aux copains. En cette fin de mois d'août, les derniers séjours de colonies de vacances s'achèvent. Cette année encore, plusieurs milliers d'enfants et d'adolescents en auront fait l'expérience. Un séjour sans les parents, loin de chez soi et parfois sans connaître personne. Se faire de nouveaux amis et apprendre à vivre ensemble, c'est justement le projet que revendiquent les colonies de vacances. Des séjours pas comme les autres, où l'on vient s'amuser, certes, mais aussi se confronter à la vie en société. Un état d'esprit pas toujours facile à promouvoir, parce qu'un séjour kitesurf avec ses amis d'enfance sera toujours plus attractif qu'apprendre à monter une tente avec des inconnus. Sauf que le kitesurf, ce n'est pas le même prix, et que même l'été, difficile d'échapper à sa condition sociale. Alors l'écolo, laboratoire du vivre ensemble. Et ils sont quatre invités pour discuter ce soir. Jean-Carl Deschamps, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la JPA, c'est la Jeunesse en plein air. C'est une structure qui fédère plusieurs organisations, 37
une
je crois.
Une quarantaine d'organisations, tout à fait.
Oui. Une quarantaine qui sont donc pour l'essentiel des organisateurs de séjours.
Pas que, il y a aussi des associations de parents d'élèves, des syndicats, des représentants de comités d'entreprise. Bref, des gens qui s'intéressent au sujet en général du départ en vacances.
Et vous êtes par ailleurs membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, secrétaire adjoint de la Ligue de l'enseignement, et puis vous avez vous-même longtemps et dirigé et animé des colonies de vacances. À vos côtés pour discuter ce soir, Isabelle Monforté, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de projet éducation et loisirs au sein de la Fédération générale des pupilles de l'enseignement public. Troisième invité, Jean-Marie Bataille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pédagogue enseignant à l'Université Paris 13, chercheur en animation socioculturelle. Vous êtes responsable de l'équipe de chercheurs qui a rendu un rapport en 2016 intitulé « Des séparations aux rencontres en camp colo » et c'était dans le cadre de l'évaluation d'un dispositif du ministère « Génération camp colo » dont on reviendra. Et puis, dernier invité, Mathias Lamarque, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous sous-directeur de l'éducation populaire, alors au sein de la direction de la jeunesse et au sein du ministère de l'éducation nationale. Alors, première question pour vous, Jean-Carl Deschamps. Le 21 juillet, la JPA a convié les députés de la nouvelle Assemblée à venir découvrir les colonies de vacances autour d'un événement intitulé « Ocolo citoyens ». Pourquoi organiser un tel événement à destination des hommes et des femmes politiques, précisément ?
Parce qu'il est utile que celles et ceux qui font la loi et qui représentent les citoyens sachent concrètement effectivement de quoi ils parlent et que tous les députés n'ont pas eu la chance de partir en colonie, même si c'est les élus en général. Il y a un taux de départ lorsqu'ils étaient enfants qui est assez important. Ça doit peut-être même influencer l'idée de se mettre au service des autres que de partir en colo à un moment ou à un autre.
Alors, vous avez eu du répondant, du succès. Combien de députés sont venus assister au colo citoyen ?
Vous voulez des noms ?
Un chiffre, peut-être.
On a grosso modo accueilli une quarantaine de députés, ce qui peut apparaître peu par rapport au nombre de députés qu'il y a en France. Néanmoins, nous étions dans une période, chacun a le droit de noter, où la Chambre n'avait pas fini de travailler, où les députés n'étaient pas en vacances. Ils ont donc séché pour venir, ce qui est assez intéressant. Et nous les avons reçus dans, grosso modo, 40 départements différents. C'est ça aussi qui est important.
En tout cas, le constat de base, c'est qu'il y a un manque d'intérêt pour les colonies, ou en tout cas nécessité de remobiliser les pouvoirs publics sur ces questions. Isabelle Monforté ?
Oui, je crois que effectivement, hein, la Fédération générale des PEP a participé également à cette opération puisque nous sommes également membres de la Jeunesse au plein air. Je crois que ce qu'on constate et ce sur quoi on travaille ensemble aussi avec Mathias Lamarque, c'est comment remobiliser effectivement l'intérêt et du public, hein, mais aussi des pouvoirs publics et des élus sur cette question et sur l'enjeu que représentent les colonies de vacances aujourd'hui, qui ne sont pas que des séjours de vacances lambda, hein, qui sont portés par un projet éducatif qui est effectivement de permettre à tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles, territoriales, leurs besoins spécifiques, leur handicap ou pas handicap, de partager des moments de vacances, de plaisir et à travers ces moments d'apprendre à vivre avec les autres et de se construire, de créer du commun pour aider, contribuer à faire en sorte que les adultes de demain aient ces moments de partage et contribuent à cette identité commune.
Alors justement, les colonies ne sont pas des séjours comme les autres. Vous le disiez, Jean-Marie Bataille, si on devait, alors je l'ai un petit peu peut-être caricaturé en introduction, mais globalement, pour définir la colonie de vacances, l'idée c'est que voilà, il n'y a pas que du loisir, il y a aussi avant tout un projet pédagogique.
On peut définir la colonie de vacances comme d'abord un déplacement entre une ville et un ailleurs. Et chaque fois, dans l'histoire, il y a toujours une raison de le faire. Et on y reviendra, on précisera par la suite. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un moment où on est en train de redéfinir finalement cette raison. Et je pense que, à la fois au niveau politique, mais au niveau des organisateurs, il y a une évolution et la question de la mixité sociale commence à devenir une vraie question partagée.
Alors pourquoi cette nécessité de redéfinir la mission, je ne sais pas, ou l'identité, le cœur des colonies de vacances, peut-être parce qu'on est arrivé à un essoufflement un petit peu du modèle?
Alors oui, il y a eu un essoufflement du modèle. Il s'est fait progressivement. Il s'est fait en fait par un déplacement progressif. Dans les années 50-60, on est dans l'âge d'or des colonies de vacances. Tout le monde sait pourquoi partir. Il y a multiples raisons. Entre autres, à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a des raisons, j'allais dire, basiques de nourriture. On sait que là, les colonies de vacances sont un lieu qui permettent de se nourrir. Donc les classes populaires et les classes moyennes y vont. Il y a du sens. Il y a un projet éducatif. On est sur une période d'éducation forte et les gens s'investissent dans cette dimension-là. Mais à partir des années 70, il y a autre chose qui se passe. Il y a l'arrivée d'un discours assez repéré. Dans mes travaux sur les archives que j'ai pu faire, j'ai trouvé un texte de 1979 où le terme rentabilité apparaît pour la première fois. Et ce terme-là, en fait, est précurseur d'un glissement dans la conception des colonies de vacances qui tout doucement, vont devenir un objet qu'on va vendre. Aujourd'hui, on a même des discours où on dit il faut s'occuper de l'offre de vacances au travers des colonies de vacances. La dimension de pourquoi on part, d'une certaine façon, a été mise de côté.
Alors pourtant, Mathias Lamarck, depuis 3 ans, le ministère a lancé une campagne, un 100% colo, avec des messages assez clairs sur les spécificités des colos, hein, expérience de la vie collective, confrontation aux autres, se construire en tant que citoyen. L'objectif, c'était ça, juste de rappeler ce qui fait l'essence, ce qui fait le cœur des colonies de vacances.
Il y a une idée selon laquelle les colonies de vacances sont datées, ringardes, etc. C'est complètement faux. En France, vous avez près de 10% des enfants scolarisés qui partent tous les ans en colonies de vacances. Maintenant,
on a néanmoins une fréquentation en baisse.
Voilà. La fréquentation baisse, mais parce que ça renvoie aussi au fait que les parents, on est dans l'éducation choisie. Les parents peuvent choisir ou pas certains modes de vacances pour leurs enfants. 3 millions d'enfants ne partent pas en vacances, beaucoup partent, heureusement. Les parents peuvent choisir, contraints ou volontairement, d'envoyer leur enfant en colonie de vacances. Et l'idée que nous avons avec les principaux organisateurs de colonies de vacances, je rappelle juste que les principaux organisateurs de colonies de vacances, hein, plus des 2/3, ce sont des associations d'éducation populaire. C'est-à-dire, ce sont des structures qui ont l'éducation, la mixité dans leur gène. Et donc, forcément, nous, au ministère en charge de la jeunesse, nous appuyons cette démarche en essayant, effectivement, de corriger, autant que faire se peut, une forme de désaffection qui est réelle sur le nombre de colonies de vacances. On a perdu 200 000 enfants en 10 ans. En revanche, qui n'est pas tout à fait réelle au regard des départs des enfants, puisque certains partent en famille, les vacances familiales, et d'autres partent dans ce qu'on peut appeler des mini-camps organisés par des structures de proximité. Donc il y a une organisation des départs en vacances qui s'est complexifiée, mais dans laquelle la colonie de vacances reste le lieu de cet échange, de cette découverte de l'autre.
Isabelle Monforté ?
Oui, moi je voulais simplement compléter en disant qu'effectivement il y a une baisse de la fréquentation annuelle, hein, depuis plusieurs années. Alors on en connaît les raisons, hein. Effectivement il y a un problème peut-être d'image, de communication. Il y a aussi des problèmes économiques. Même si les séjours, on ne fait pas de profit sur les séjours, ça a un coût pour les familles. Sachant les conditions des familles aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'envoyer plusieurs enfants à 500 euros, même si on se rapporte au nombre de jours, c'est pas énorme.
Excusez-moi, vous disiez d'image, donc contrairement à Mathias Lamarque, vous pensez qu'il y a eu un effet de mode qui est peut-être un peu passé, les colos sont un peu démodés aujourd'hui?
Non, pas du tout, j'allais plutôt dans son sens, je pense qu'effectivement il y a toute une génération qui est restée sur une image datée, peut-être liée à la chanson de Pierre Perret, à une espèce d'image comme ça passéiste, où on part en camp, on fait des randos, etc.
Oui, donc
ça,
un peu démodé.
Voilà, cette image, ces colos existent, mais du coup, si vous voulez, la question c'est que il faut aujourd'hui réinscrire dans l'imaginaire social des familles et des enfants ce que sont les colos aujourd'hui, où effectivement on fait du kitesurf, on fait un séjour, nous, de tour des capitales européennes avec un travail éducatif sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a cette question de l'image, et il y a cette question aussi des conditions économiques et de l'aide, sur laquelle il faut qu'on retravaille, de l'aide financière. Mais moi je voulais compléter en disant qu'effectivement 10% des enfants chaque année partent, c'était beaucoup plus par le passé, mais pour avoir eu la chance de travailler précédemment sur des enquêtes, ils partent sans doute moins souvent et peut-être tous les 2-3 ans, mais si on garde une classe d'âge, à 18 ans, vous avez 40% des enfants et des jeunes qui sont partis une fois au moins en séjour, parce qu'ils ont pu le faire financièrement, parce qu'il y a eu un intérêt. Après, ça peut-être pas pu se renouveler parce que les conditions matérielles n'ont pas pu le faire, mais il reste un intérêt. Et en tout cas, ceux qui partent ont envie de repartir. Donc, donnant leur la possibilité de le faire.
Jean-Carles Deschamps, est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a eu un défaut de transmission de l'envie de la colo, peut-être d'une génération à l'autre? Vous parliez tout à l'heure des politiques qui ont à vous confier leurs souvenirs de colo, et plus généralement, comment vous expliquez la baisse de fréquentation?
Il y a plein de paramètres qui expliquent cette baisse. Isabelle vient d'en évoquer, Mathias Lamarque en a évoqué également, le professeur Bataille aussi le pointe dans les différents travaux qu'il mène. Un exemple très concret qui vient compléter ce que tu disais, Isabelle, c'est la question aussi des évolutions de la société. Je prends mon exemple personnel, j'ai 3 enfants. Le premier a 28 ans, le dernier en a 17. Les deux premiers, 28 et 24 ans aujourd'hui, sont partis en colonie. Il se trouve que, comme beaucoup de couples en France, nous nous sommes séparés avec leur maman. Le dernier n'a pas été en colonie. Non pas parce que nous nous sommes séparés, mais parce qu'à partir du moment où nous étions séparés, les 2 mois de vacances se répartissaient entre les 2 foyers. Et tout simplement, même s'il en a eu l'envie, et d'ailleurs aujourd'hui animateur, il n'a pas pu bénéficier de cela matériellement. C'est un des éléments qui n'explique pas tout, mais qui vient illustrer cela. Je voulais juste dire que ce que pointait Jean-Marie Bataille tout à l'heure est extrêmement important et tout à fait véritable. Et ça confirme que la colonie est en plein dans la société. Elle n'a pas échappé aux réalités de la société. Dans les années 70, beaucoup de systèmes ont subi des évolutions fortes qui sont liées à des crises multiples, etc., et qui ont interrogé ces organisations. C'est vrai du monde associatif, c'est vrai de l'entreprise, c'est vrai du club du foot du coin, c'est vrai de la culture, c'est aussi vrai des colonies.
Jean-Marie Bataille, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les colonies de vacances doivent s'adapter à deux nouvelles attentes. Alors on a parlé du besoin d'attractivité, et voilà à quel point ça modifie toute la structure des colonies de vacances. Et il faut qu'elles puissent offrir aujourd'hui des activités peut-être plus excitantes, donc plus chères. Et d'ailleurs, quel impact sur la composition et la fréquentation des enfants qui partent en colonies de vacances?
Il faudrait inverser le raisonnement. Il y a quelque chose qui, dans les éléments qu'on amène, ils s'ajoutent les uns aux autres, et puis on voit pas très bien finalement le tableau se dessiner. Les travaux qu'avait fait Isabelle Monforté sur la question de la place des classes moyennes dans les colonies de vacances sont très clairs. On sait qu'on a une catégorie de la population qui n'accède plus aux colonies de vacances pour des raisons financières. Il y a une baisse des aides. Mais la question derrière, c'est que c'est pas forcément la cause. Là, on a un élément, un symptôme de quelque chose qui est plus profond. La réalité, c'est que derrière, tout doucement, le champ s'est trouvé emporté finalement par un discours libéral sur ce que je disais tout à l'heure, la rentabilité des colonies de vacances. Hein. On a assisté progressivement à l'arrivée des activités pour pouvoir remplir les colonies de vacances. Quand on a dit qu'il fallait qu'elles soient rentables, il fallait trouver des moyens. Ensuite, on a amené des éléments de marketing dans les colonies de vacances pour les rendre attractifs, pour que les gens les voient, les identifient. Et puis, on a là, dans les derniers événements qui se passent dans le champ, des regroupements de différents d'une série d'organisateurs, parce que c'est un système classique dans le champ commercial. Il faut à un moment donné atteindre une certaine taille pour pouvoir fonctionner. Alors ça, bon voilà, ça c'est quelque chose de plus profond qui en fait a extrait tout doucement un sens commun, un sens partagé des colonies de vacances. La chose qui fait en fait la différence dans l'histoire, c'est pourquoi on part. Quelle est la raison collective qu'on se donne pour le départ. Et si on l'énonce, si on l'identifie, alors à ce moment-là, l'ensemble des acteurs de la société se donnent les moyens de s'engager à travers cette nouvelle chose qui est déterminée. Et c'est de ça qu'il faut, à mon avis, je crois, rendre compte aujourd'hui.
Jean-Marc Lamarque, c'est une réflexion qu'on a au sein du ministère, précisément se demander pourquoi, collectivement, on doit mettre des moyens pour que les colonies de vacances, dans leur système actuel, perdurent.
Pourquoi et comment ?
Et comment, bien sûr ?
Je rejoins tout ce qui a été dit. D'abord, on est le champ des colonies de vacances et dans l'économie sociale. On est dans une activité économique qui a une dimension sociale et éducative très très forte, mais qui relève bien d'une activité économique. Les animateurs sont payés ou indemnisés, les locaux sont loués ou entretenus quand c'est une structure municipale ou quand la structure est propriétaire de ces locaux. Les déplacements coûtent, la nourriture coûte, etc. Donc on est bien dans un champ dans lequel il faut bien que l'organisateur, et je resterai sur les organisateurs associatifs ou publics, hein, qui correspond à 90% de l'activité, les organisateurs associatifs ou publics doivent aussi veiller à ce que le prix soit conforme et donc dégager des moyens pour ça. Les moyens peuvent être dégagés de plusieurs manières. D'une part, les gens payent directement. Il y a des catégorie de la population. Jean-Marie Bataille y faisait référence indirectement, puisque c'est pas les classes moyennes, c'est ceux qui sont au-dessus, les classes supérieures, les catégories socio-économiques supérieures, peuvent payer, effectivement, pour les colonies de vacances. On a aussi les catégories ensuite les plus populaires, qui, elles, effectivement, peuvent bénéficier de systèmes d'aide par, notamment, la Caisse d'allocation familiale, qui met tous les ans plus de 20 millions pour l'aide aux familles. Donc mais toutes ces aides sont pas utilisées. Enfin, après il y a d'autres sujets. Et puis effectivement, et je rejoins tout à fait Jean-Marie Bataille, on a le sujet des classes moyennes qui, elles, soit ne peuvent pas, classe moyenne inférieure si on raisonne en termes de catégories socio-professionnelles, soit font d'autres arbitrages économiques. Par exemple, les séjours familiaux en VVF, par exemple, d'autres types de séjours. Et toute la difficulté pour nous consiste à accompagner les acteurs éducatifs à travers notamment des campagnes de communication pour redistiller l'idée qu'une colonie de vacances, c'est pas effectivement, comme c'était le cas dans les années 30, 40, 50, des jeunes enfants qui défilent au pas dans les rues de villages en Vendée pour aller à la mer, etc. C'est pas ça. C'est plus ça. Et heureusement, les attentes sociales sont différentes. Donc, on est bien là dans un cadre dans lequel il faut d'une part, je pense qu'on en reparlera, essayer de déterminer les conditions d'améliorer, qui permettent aux familles de faire ce choix, et d'autre part, les amener à avoir envie de faire ce choix. Et Jean-Carl Deschamps disait très justement tout à l'heure, quelqu'un qui va en colonie de vacances, il y revient.
Jean-Carl Deschamps, vous vouliez réagir.
Je voulais réagir aux deux choses, en fait. Pourquoi on part ? C'est la vraie question. C'est la vraie question. La JPA vient de faire un sondage auprès des Français au mois de juin, juste avant d'accueillir justement nos parlementaires auxquels vous faisiez la journée à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. 85% des gens répondent « L'intérêt de la colonie, c'est d'apprendre au vivre ensemble. » C'est extraordinaire. Trouver un objet sociétal aujourd'hui, donc 85% des Français pensent qu'il est utile directement pour apprendre le vivre ensemble. Ils le mettent bien devant le côté apprendre à être plus autonome, ce qui est très important. On est plus dans l'éducatif. Ils mettent en premier le vivre ensemble. Et la question du derrière de pourquoi on part, c'est pourquoi des organisateurs font partir des enfants. Et là, je croise avec ce que Mathias Lamarck disait tout à l'heure. Mais simplement parce que c'est dans leur gène. La Ligue de l'enseignement, qui est l'un des membres de la JPA, vient de fêter ses 150 ans. Elle est née avant les colonies. Son idée, c'était de développer des espaces d'apprentissage de la citoyenneté. Et dans la citoyenneté, parce que nous sommes en République, en France, il y a la question du vivre ensemble. Elle a mis en place des colonies, au même titre que des classes de découverte, au même titre que des actions culturelles, parce qu'il était nécessaire d'outiller la société pour le faire. Ça n'a absolument pas changé. Par contre, pour le faire aujourd'hui, on n'utilise pas les mêmes moyens que pour le faire il y a 30 ans. Et c'est vrai que pour pouvoir accueillir des classes moyennes, il faut effectivement, par exemple, communiquer différemment. Internet n'existait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, les inscriptions de colos sur Internet, ça existe, c'est une réalité. Et c'est même, j'allais dire, une nécessité, pas seulement marketing, une nécessité technique. Et puis, il faut aussi aider financièrement, notamment les classes moyennes qui ont des difficultés. La JPA fait, en ce sens, une proposition. Aujourd'hui, lorsque vous faites accompagner votre enfant à domicile par de l'aide au devoir, pour de l'aide au devoir, vous pouvez défiscaliser le coût. Quand vous faites garder votre enfant de 4 ans à la maison, vous pouvez défiscaliser le coût. Quand vous l'envoyez en colonie, qui est un outil éducatif reconnu par l'État, vous ne pouvez pas défiscaliser le coût. Créons un crédit d'impôt pour les classes moyennes qui paient des impôts, justement, et cela permettra d'envoyer un signal, mais aussi d'aider concrètement, à moindre coût par rapport à beaucoup d'autres mesures, celles et ceux qui aujourd'hui manquent à l'appel de la mixité sociale dans les centres de vacances.
Justement, la mixité sociale, c'est l'un des arguments que vous mobilisez, entre autres acteurs et organisateurs des séjours de vacances. À quel point aujourd'hui les colonies de vacances sont vraiment des lieux de mixité sociale? Vous avez commencé effectivement à évoquer les difficultés à toucher toutes les classes sociales de la population, mais quelles données on a vraiment aujourd'hui? Qui part en colonie de vacances et surtout partent-ils ensemble dans la même colonie de vacances, Isabelle Monforté?
Alors, pour répondre à votre question, les données ont déjà quelques années. C'est une enquête de Lovelage de 2011 qui montrait qu'effectivement, il y avait une problématique de creux au niveau des classes moyennes sur l'ensemble des publics qui partent en séjour. Après, moi, je voulais compléter ce que disait Jean-Carl, puisqu'effectivement, la Fédération Générale des PEP est... peut s'est créé dans le même projet ou dans un projet de créer des espaces éducatifs pour tous les enfants, que ce soit sur le temps périscolaire, que ce soit sur les centres de loisirs et que ce soit sur les séjours. Donc aujourd'hui, il y a des séjours où il existe cette mixité, mais il faut qu'on la travaille. Comme disait Jean-Carl, effectivement, on n'est pas dans les mêmes conditions. La société a évolué. Dans les années 80, la Sofres avait fait une enquête pour comparer. Et là, si on la compare à celle de Lovelage en 2011, dans les années 80, la Sofres concluait au fait qu'il y avait une représentation de toutes les catégories sociales dans les séjours.
Aujourd'hui, donc il y a moins de mixité sociale aujourd'hui que dans les années 80, dans les colos.
Globalement. Mais il y a moins de mixité sociale dans la société. L'habitat est de plus en plus ségrégé. L'école est dans des quartiers, donc il y a moins de mixité. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les colos sont dans la société. D'où la question qui est au-delà de l'accès au départ et au-delà de ce qui a été dit tout à l'heure sur le travail des organisateurs. Pourquoi nous, on est engagés sur cette question-là? C'est aussi pour continuer à œuvrer sur ce projet-là, de permettre à travailler sur ce vivre ensemble. Mais les conditions n'étant pas les mêmes, ça demande effectivement de travailler sur le comment. Comment on fait aujourd'hui? Il y a la question des aides, mais il y a aussi sur comment on va vers des publics qui sont éloignés du départ, qui n'ont pas l'information sur les aides, qui n'y pensent même pas. On est par exemple en partenariat avec la JPA et le ministère de l'Éducation nationale pour faire partir des enfants qui sont dans les dispositifs écoles ouvertes, c'est-à-dire des établissements scolaires qui restent ouverts l'été pour proposer des activités aux enfants. On travaille à faire partir ces enfants-là. Mais ça veut dire en amont, ce n'est pas uniquement vendre des séjours, ça veut dire en amont aller rencontrer les familles, les rassurer, leur expliquer ce que c'est qu'une colo, les aider à contacter leur CAF pour avoir des aides. Voilà, c'est un travail tout en amont. Mais quand je dis aller vers, c'est aller vers tous les publics. Donc il faut que les séjours ils soient attractifs aussi pour tous les publics et pour tous les jeunes. Voilà, un jeune d'aujourd'hui, ben, il a envie de voyager, il a envie de faire du surf. Après, quand il est plus jeune, ben, aussi, il a envie de faire un séjour ferme qui n'est pas forcément très coûteux. Il faut qu'on soit aussi dans des activités qui soient attractives, qui leur plaisent. Ce sont des vacances, c'est du plaisir, hein, il ne faut pas l'oublier.
France Culture, du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
Les colos laboratoires du vivre ensemble, on en discute encore jusqu'à 19h avec Jean-Marie Bataille, Mathias Lamarque, Isabelle Monforté et Jean-Carl Deschamps. Alors Jean-Marie Bataille, vous aviez, je le disais tout à l'heure, mené un travail d'évaluation en 2016 qui portait sur un dispositif Génération Camp Colo, dispositif qui visait justement à encourager entre autres la mixité sociale dans les colos et ce qu'on a pu comprendre de votre rapport, c'est que ces objectifs n'étaient pas tout à fait atteints. Alors, je cite juste un organisateur de colo dont vous rapportez les propos dans votre rapport. La mixité sociale, c'est du pipeau. La majorité des classes sociales aisées ne veulent pas que leurs enfants se mélangent avec des adolescents des quartiers populaires. Voilà, donc citation d'un organisateur, hein. Ce ne sont pas vos propos, je précise.
Oui, tout à fait. C'est important de rappeler cette histoire du dispositif Génération Camp Colo parce qu'il indique quelque chose des origines de ce questionnement. On est après les attentats de janvier 2015 et l'État s'interroge et mobilise en fait les différents services après ces événements sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Et il y a une synthèse qui est proposée par le Comité interministériel d'égalité et citoyenneté qui est tout à fait étonnante. Il y a un parti pris à ce moment-là de l'administration de dire l'enjeu c'est la mixité sociale. Il s'est passé quelque chose qui fait que aujourd'hui certains dans la société ont le sentiment d'en être exclus et d'en être à la marge. En fait, ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de cette question de la rentabilité, on pourrait continuer en regardant aussi du côté des classes supérieures, ça a été plusieurs fois évoqué. En fait, en quelque sorte, les classes supérieures ont mis sous tension le reste de la société avec un séparatisme où elles ont décidé finalement de continuer leur bout de chemin sans s'occuper du reste du fonctionnement de la société. Et tout le reste de la société s'est trouvé du coup déporté, mis en tension. Dans le cas des colonies de vacances, alors nous, qu'est-ce qu'on a repéré dans le cadre du rapport, on a repris le terme mixité sociale. La mixité sociale, ce que nous renvoyait Yves Rébeau, il disait s'il y a la question se pose de la mixité sociale, c'est parce que d'abord il y a eu des séparations entre deux publics. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ, mais il faut comprendre que quand on se pose la question de mélanger des personnes ou de les faire se rencontrer, c'est que préalablement, ils ont été séparés. Je reprenais, par exemple, un arrêté de novembre 63 qui concerne les colonies de vacances, où on disait que les colonies de vacances étaient pour les enfants sains. Donc les autres enfants, tous les autres, ça fait quand même beaucoup de monde, n'avaient pas leur place à l'intérieur des colonies de vacances. On a l'exemple aussi quand les opérations prévention étaient dans les années 80, au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir, où il y a des émeutes dans les quartiers. Là, tout d'un coup, on découvre qu'il y a toute une population qui ne part pas en vacances l'été, qui reste dans les quartiers à traîner. Et bon, voilà, ça finit pas toujours très bien. Donc, en fait, il faut interroger ces séparations et il faut les interroger de façon précise pour savoir après comment on va permettre les rencontres entre ces gens qui, à un moment donné, ont été séparés.
Alors, Mathias Lamarque, on le sait, hein, que ce soit à l'école, dans le logement, la mixité sociale, ça ne se décrète pas, mais ça peut néanmoins s'encourager, c'est en tout cas l'objectif de ce dispositif Génération Camp Colo.
Il y a eu effectivement une réponse rapide qui a été donnée à une situation dramatique pour le pays. Et effectivement, la réaction politique était une réaction qui s'est inscrite dans une réaction collective. C'est-à-dire, la réponse, elle est soit l'exclusion, soit le vivre ensemble. Bien évidemment, dans une république, la réponse, c'est le vivre ensemble. Les colonies de vacances sont un des éléments, et ça a été dit par l'ensemble des intervenants, parce que c'est le lieu, un des lieux rares dans lesquels, effectivement, ce type de choses se déroule. En revanche, la question, c'est comment on va maintenant permettre à des publics, notamment les jeunes désœuvrés dont vient de parler Jean-Marie Bataille, comment on va leur permettre d'aller vers, effectivement, la colonie de vacances. Et pour ça, il y a en fait un certain nombre. Il y a la prise en compte des différents temps éducatifs. Et d'ailleurs, le fait d'avoir le même ministère qui s'occupe de l'éducation et de la jeunesse et de l'éducation populaire est un signal fort, parce qu'effectivement, on voit bien que le temps scolaire, le temps périscolaire, le mercredi, les petites vacances et les grandes vacances, à travers l'école, à travers les acteurs de l'éducation populaire, du sport, de la culture et les familles, bien évidemment, concourent à un projet éducatif. Donc cette logique, effectivement, elle doit permettre à ces jeunes d'aller vers les parcours. Quand une famille n'entend pas l'intérêt d'envoyer son ou ses enfants dans une colonie de vacances. Bon, peut-être que, certainement, le fait d'avoir participé à une classe de découverte, le fait d'avoir participé au mini-camp du centre de loisirs ou de la maison de quartier, une ou deux nuits à l'extérieur du cadre familial, va faire que, petit à petit, on va aller vers ce qu'est, effectivement, la découverte de l'autre poussée à son cadre éducatif le plus intéressant, qui est la colonie de vacances. Et d'ailleurs, quand Jean-Michel Blanquer est arrivé au ministère de l'Éducation nationale, il se trouve que, pour des raisons de calendrier, les vacances sont arrivé assez vite. Et donc, il est allé tout de suite sur des lieux de colonies de vacances parce que, justement, il nous a bien indiqué à nous qu'il était le ministre des temps éducatifs. Et donc, on voit bien que ce travail-là, il doit être porté par ces acteurs-là. Et je pense que c'est à travers, effectivement, d'une part, ces parcours qui vont être nécessaires pour aller vers les colonies de vacances, à travers une communication plus grand public, qui permet aussi de donner une bonne image aux colonies de vacances, et puis à travers quelque chose qui, pour nous, État, est majeur, c'est la sécurité. Le rôle majeur de l'État consiste à garantir la sécurité des enfants qui vont en colonie de vacances. Plus de 7000 contrôles tous les ans, un travail de co-construction des diplômes d'animateurs avec les organismes de formation et les mouvements d'éducation populaire. Enfin, il y a tout ce travail-là qui va faire que tous les ans, 50 000 jeunes ont le BAFA, s'orientent vers les centres de loisirs ou les centres de vacances, et font qu'ils partagent aussi ces valeurs dans une logique de sécurité. Quand Jean-Marie Bataille disait tout à l'heure, il fallait en 1963 que les enfants soient sains, ça voulait juste dire, je crois, qu'il fallait simplement qu'ils ne soient pas contagieux. Enfin, voilà.
Isabelle Monforte, vous vouliez réagir. Oui, moi je voulais rebondir sur la crainte effectivement de certains parents que leurs enfants passent des temps avec des enfants d'autres milieux sociaux. Je pense qu'elle est présente effectivement chez les catégories supérieures, mais elle est aussi présente chez des familles de certains quartiers qui sont repliées sur elles-mêmes, parce qu'il y a la crainte du regard de l'autre, il y a la crainte de la rencontre de l'autre, d'où l'enjeu fort sociétal de ces espaces où on peut travailler cette rencontre. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut créer les conditions. C'est bien en amont, effectivement, dans les articulations entre les temps éducatifs, dans la possibilité de construire des parcours, mais pour tous les enfants, quels que soient leurs milieux sociaux, pour aussi montrer à toutes les familles, à tous les parents, qu'il y a de l'intérêt pour ça, hein, et que leur enfant va en bénéficier. Hein. Et d'ailleurs, c'est justement par la communication en direction des enfants qu'on peut y arriver, puisque ce sont le plus souvent les premiers prescripteurs. Et le bouche à oreille entre les enfants et les jeunes, ça marche très bien.
Jean-Carl Deschamps, vous parliez tout à l'heure de l'intérêt à affirmer des familles. Et du côté des jeunes, comment est-ce qu'on mesure l'envie des jeunes de partir ? Alors, vous le disiez, une fois qu'ils sont partis, il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Mais comment est-ce qu'on fait aussi pour jouer sur les autres barrières que les barrières financières, c'est-à-dire les barrières peut-être un peu symboliques, de se dire, voilà, la colo, ce n'est pas pour moi, ou je ne vais pas avoir les références culturelles ou les références en termes de loisirs suffisantes pour me confronter à d'autres. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus ?
Alors, pour répondre à votre question, je vais venir après sur un autre sujet pour glisser, si j'ose dire, mais vous avez raison de pointer le fait que pour l'instant, on n'a pas parlé des enfants et des jeunes. C'est-à-dire, il y a la question de la communication avec les parents, qui sont des prescripteurs. On pourrait aussi parler de la question de la communication avec des acteurs extrêmement importants, que sont les collectivités locales ou les comités d'entreprise, qui sont aujourd'hui encore les premiers intervenants financiers pour aider au départ en colonie. Ils font un travail remarquable, il faut le dire. Et puis, il y a les usagers directs, c'est-à-dire les mômes, les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Quand on les interroge, alors j'ai plus les chiffres en tête, excusez-moi, je vais faire comme le Premier ministre, je vais m'autoriser à vous demander de vous les donner après, mais
vous êtes autorisé.
Lorsque on les interroge, et ça a été fait par la JPA il y a 2 ans, je crois, mais peut-être Isabelle a-t-elle en tête les chiffres, ils sont extrêmement positifs par rapport à cela. La question aujourd'hui, c'est comment on communique avec eux aussi, y compris, on y revient, par des supports de communication nouveaux, pas pour la société, mais peut-être pour des organisations associatives qui n'ont pas toujours pris le pas d'utiliser les supports comme les téléphones portables, etc., pour parler à ces jeunes et parler de la colonie. La colonie, il faut en faire le buzz. Parce que lorsqu'ils la connaissent, ils veulent y revenir. Et ils y reviennent et ils en parlent extrêmement positivement. C'est vrai de la colo, mais c'est vrai de tout le parcours de départ en vie collective, à travers la classe de découverte, à travers l'accueil de loisirs. Je crois que 70% des gamins qui sont en colo, à qui on demande qu'est-ce qui t'a donné envie de partir, en colo, répondent le centre de loisirs. Donc on voit bien qu'il y a un enchaînement des outils éducatifs dont Mathias Lamarck pointait tout à l'heure la multiplicité qui est extrêmement utile. Et puis je voulais juste venir sur un deuxième sujet très rapide. On parle de la mixité sociale. Nous, à la Ligue de l'enseignement, nous parlons des mixités. Car c'est vrai qu'il y a la question sociale, au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire socio-économique essentiellement. Mais il y a d'autres sujets. Par exemple, la mixité géographique. Comment on fait pour que, dans un pays qui devient de plus en plus urbain par son nombre d'habitants, et donc de moins en moins rural, il y ait encore l'envie de vivre en milieu rural, il y ait encore de l'intérêt pour ces territoires, comment on fait pour que ces gens se rencontrent et débattent entre eux? Comment on fait pour ne pas laisser glisser la France, devenir, comme tous les pays du monde d'ailleurs, un énorme pays urbain avec des territoires extrêmement vides qui cherchent aujourd'hui des habitants? Eh bien, ça se combat par l'éducation et ça se combat aussi par l'opposition à des représentations. Et ces représentations, on les combat extraordinairement lorsqu'on met des gamins de milieu rural et des gamins de milieu très urbain dans la même colonie pendant 21 jours dans un autre territoire. Ça fait partie des sujets que l'on doit aborder, et c'est ce qui m'amène à dire, et je conclue là-dessus pour ne pas être trop long, que les acteurs ont des espaces aujourd'hui de rencontre pour travailler là-dessus. Notamment la mise en place des projets éducatifs de territoire sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi des collectivités locales. Des espaces où les associations au local, l'éducation nationale, la collectivité locale travaillent avec la CAF pour essayer de voir comment on peut favoriser l'éducation au sens large. Et il est utile que dans les plans qu'ils mettent en place, dans les projets qu'ils font, eh bien, la colonie de vacances retrouve toute sa place.
Jean-Marie Bataille.
Je voulais continuer sur ce qui a été dit tout à l'heure en disant qu'il y avait 80 et quelques pourcents des Français qui étaient pour la rencontre qui était évoquée tout à l'heure. Et je voulais prendre l'exemple des scouts et guides de France qui ont en 2012 posé dans leur assemblée générale l'idée d'un scoutisme pour tous. Et c'était pas un projet qui venait des chefs du scoutisme, c'est venu de la base. Donc en fait, on trouve en fait une résonance entre cette statistiques et des engagements concrets d'un certain nombre de personnes. Du coup, qu'est-ce que ça a donné? Ben, depuis 2012, il y a un engagement des scouts et guides de France dans cette direction. Il y a de plus en plus, en fait, d'enfants qui s'inscrivent dans le scoutisme. Et ils ont mis en place en fait des modalités pour abaisser les frontières. J'évoquais tout à l'heure que la mixité, c'est d'abord des séparations. Donc ils ont réfléchi en fait qu'est-ce qui fait séparation et comment le dépasser. Très basiquement, par exemple, ils ont réfléchi au vocabulaire interne du scoutisme. Quand on dit une patrouille, il faut savoir qu'on parle de tente. Bon, ces choses-là font que peut-être pour des gens qui sont éloignés, c'est compliqué. Maintenant, je voulais revenir aussi sur la question, on évoque effectivement la mixité sociale, il faut en parler, il y en a bien d'autres. Quelque chose, en fait, de la construction de ce champ qui fait que on voit même plus les séparations. Quand on prend l'exemple la ville par rapport à la campagne, en fait, pendant très longtemps, la colonie de vacances fonctionnait en autarcie, c'est-à-dire on n'imaginait même pas sortir et rencontrer les gens autour. Là, aujourd'hui, on est en train de basculer sur d'autres projets, où je pense à des centres de loisirs qui s'installent à l'intérieur de la colonie de vacances, comme à la maison de Courcelles, ce qui permet du coup aux enfants du village de profiter de la colonie de vacances, et par ailleurs, le reste de l'année, la cuisine de la maison de Courcelles sert à l'école du village. Donc là, il y a une sorte de synergie qui se met en place. Il y a la question du handicap. Le handicap, aujourd'hui, il y a des séjours adaptés pour le handicap. Donc, c'est une longue construction dans l'histoire de la prise en charge des situations de handicap. Aujourd'hui, on a un chemin à faire. Depuis les années 80, il y a quelque chose qui a été engagé par les acteurs du champ, mais il reste encore aujourd'hui des difficultés, en particulier sur des questions de financement.
Alors, on est bientôt à la fin de l'émission, encore quelques minutes. Simplement, je voulais vous demander, une fois que l'objectif de la mixité sociale, ou en tout cas de l'idée de pouvoir toucher toutes les classes de la population sur les séjours de vacances est à peu près atteint, est-ce que c'est une première étape? Et ensuite, quels outils on a pour organiser un séjour où on met véritablement en forme, justement, un vivre ensemble? Est-ce qu'il y a des outils particuliers, Isabelle Monforté, propres aux acteurs de l'éducation populaire pour ensuite faire vivre ensemble en acte cette mixité sociale?
Ben, les outils, c'est tout le travail en amont dont je parlais tout à l'heure, hein, sur tous les types, de familles, hein, quelles que soient les problématiques. Juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Marie, mais qui rejoint votre question, hein, sur la question du handicap, il y a certes les séjours adaptés, mais nous on travaille beaucoup sur l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les séjours avec les autres. Comme les autres, hein. J'avais avant-hier mon collègue de la Manche qui m'expliquait comment dans un séjour il y avait 10 enfants d'un IME qui ont IME Institut Médico-Éducatif, voilà, qui ont travaillé avec, enfin qui ont construit avec les autres un spectacle de cirque, et voilà. Et les outils, c'est comment on fait en sorte avec les équipes d'animation, comment on travaille à leur formation, à leur accompagnement, pour faire en sorte que malgré les différences, justement, il y ait cette rencontre possible. Et que cette rencontre de l'altérité, elle crée du positif. Hein. Et juste pour une petite note, voilà, il me racontait que parmi ses enfants de l'IME, il y avait une petite fille qui avait de grosses crises d'angoisse et la famille avait dit, bon, quand elle a une crise d'angoisse, il faut chanter. Donc on a expliqué ça aux animateurs et ce qui s'est passé, c'est que finalement, tous les enfants du séjour se mettaient à chanter quand la petite fille avait des crises d'angoisse. Alors, c'est une anecdote, hein, mais c'est pour expliquer, vous demandez les outils pour travailler et se vivre ensemble. C'est bien prendre en compte les particularités de chacun et faire en sorte qu'il y ait cette rencontre, une rencontre intersubjective qui soit au-delà, justement, des différences.
Jean-Carl Deschamps, vous aurez le mot de la fin.
Le projet éducatif des œuvres qui organise des centres de vacances est le premier outil. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller voir, lorsqu'ils s'intéressent aux colonies de vacances, dans les organisations, la qualité des projets éducatifs. Ils sont toujours optimisables, mais ils existent. C'est-à-dire, le projet éducatif, c'est quoi? C'est l'explication du pourquoi la Ligue de l'enseignement, les PEP, l'UCPA, organisent des colonies de vacances. C'est un outil extraordinaire. Mais l'outil éducation populaire le plus important, c'est la capacité de mobilisation sociétale. Quelle autre structure que les associations peuvent aujourd'hui ou pourraient aujourd'hui mobiliser des centaines de milliers de jeunes qui acceptent de donner du temps, bénévolement quasiment, pour encadrer des plus jeunes en écolo de vacances, qui ont envie de venir faire l'expérience de l'engagement, c'est aussi une forme de mixité, et qui aujourd'hui sont celles et ceux qui portent l'action éducative.
Justement, cet engagement militant, pour vous, il est toujours aussi fort, ou il y a quand même aussi peut-être un petit effet d'essoufflement?
Écoutez,
aussi
Alors, pour moi, il est toujours aussi fort dans la volonté d'encadrer les jeunes, et d'autres dispositifs comme les services civiques nous montrent que les jeunes aujourd'hui nous donnent des leçons d'engagement, et ils ont raison parce qu'ils les donnent par les actes.
Eh bien, merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Jean-Carl Deschamps, Jean-Marie Bataille, Isabelle Monforté et Mathias Lamarque. Eh bien, c'était la dernière émission de la saison du Grain à Moudre d'été ce soir. Alors, pour la réécoute de cette dernière et de tous les autres petits grains d'été du mois d'août et du mois de juillet, vous connaissez le chemin, franceculture.fr. Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée tous les jours avec l'esprit colo d'une équipe hors pair, préparée surtout avec conviction, émotion, concentration et parfois abnégation. Un grand merci à E5, Pierre Testard, Philippine Lebray, Isulte Sicard, Juliette Montilly et Cédric Fuentes. Un grand merci également à Romain Masson qui a signé la réalisation tout ce mois d'août. Prise de son ce soir, Jean-Guilain Mège, droit d'auteur, Victor Buton.